Il a débarqué un jour dans nos vies par l'ascenseur de 22h43. Il nous a fait pédaler dans les nuages avec la fille du coupeur de joint et chalouper sur Lorelai Sebastocha. Aujourd'hui, le plus énigmatique des rockers français nous emporte dans sa galaxie poético-mystique avec un nouvel album crépusculaire.
De vive voix.
Chantal Laureau.
Bonjour Hubert-Félix Thiéfen.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir pour parler de votre 18e album studio, Géographie du vide. C'est un album qui a été écrit avant le Covid, mais curieusement, il résonne avec ce qui se passe depuis un an et demi. Comment vous l'expliquez ?
Oh, j'explique parce que je crois à l'intuition et aux vibrations et qu'il y a des choses qu'on perçoit, que le corps perçoit avant le cerveau, je crois.
Il faut être voyant, comme disait Rimbaud, que vous citez en exergue d'un des titres de l'album, l'idiot qu'on a toujours été.
Vous savez, il y a de la chance aussi. C'est-à-dire quand on... C'est un peu comme ça que fonctionnent les auteurs de science-fiction. Tout d'abord, ils analysent la situation et à partir de la situation présente, ils essaient d'imaginer ce que ça peut devenir. Alors, des fois, il y a des déviations qui font que ça n'arrive jamais. Mais généralement, d'après les scientifiques, 85% de ce que disent les auteurs de science-fiction, ben, ça se passe. C'est affolant, d'ailleurs.
Et vous, vous avez une prédilection pour la science-fiction ?
Moi, j'aime bien le futur. J'ai toujours aimé le futur, peut-être un peu moins maintenant, mais le passé ne m'a jamais beaucoup intéressé. Le présent, pour moi, c'est déjà du passé. Donc, j'aime me projeter dans le futur, projeter des idées dans le futur.
Alors, pourquoi Géographie du vide ? Ce titre, vous l'aviez en tête dès le départ ou est-ce qu'il vous est venu une fois l'album terminé ?
Non, il est venu progressivement, une fois que les musiques ont été adaptées sur les textes ou inversement, les textes sur les musiques. À partir du moment où on arrivait vers la fin, là, j'ai quand même réagi pour mettre un texte. Donc, Géographie du vide est venue assez vite. C'est ma façon un peu de jouer avec les formules poétiques qui grattent un peu à la porte des oxymores, quoi. C'est-à-dire, voilà, il y a eu des fragments d'hébétude, il y a eu des scandales mélancoliques, il y a eu des stratégies de l'inespoir. Voilà, maintenant c'est Géographie du vide.
Alors la pochette est superbe, on y voit un buste de statue fissuré. C'est vous, plutôt le moulage de votre tête qui a été cassé avant d'être reconstitué. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette idée du photographe et réalisateur Yann Oran ?
Ben, c'est-à-dire, il était un peu en difficulté du fait que je voulais... C'est parti du clip, hein, c'est-à-dire du mois de mai de cette année, où je voulais pas trop participer au clip et où je voulais pas de photos sur la pochette. Et Yann a eu cette idée de dire, bon, ben, on va quand même s'en arranger et d'avoir eu l'idée de ce buste moulé.
Qui vole en éclats.
Oui, heureusement qu'il vole en éclats, parce que...
Ça vous gênait le côté un peu statue
J'aurais refusé, parce que j'ai pas un ego quand même surdimensionné. Et ça m'aurait, oui, ça m'aurait gêné, je me serais senti déplacé. Mais à partir du moment où il y avait des fissures de plus en plus grosses, et puis que ça a explosé à la fin, bon, ça, je trouvais ça bien, quoi, c'était logique.
Suis la flèche, dis-moi ce que tu vois. Je crois que les gardiens changent de voix. Suis la flèche, dis-moi si t'aperçois les chasseurs d'illusions sur les toits. Dans le ciel, comme un ouragan, l'air prend la couleur d'un voile sanglant. En sommeil, depuis 10 000 ans, on entend gronder d'anciens volcans. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman. Heureux dans l'instant, dis-moi, suis la flèche, dis-moi si tu sens la cruelle odeur des innocents. Suis la flèche, dis-moi si t'entends les sœurs fatales et leur boniment. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman. Heureux dans l'instant, suis la flèche, dis-moi ce que tu vois. Je crois que les gardiens changent de croix. Suis la flèche, dis-moi si t'aperçois là-bas au loin les jongleurs sans loi. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman. Heureux dans l'instant.
Hubert Félix Thiéphaine, en sommeil depuis 10 000 ans, on entend gronder d'anciens volcans. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Est-ce que vous êtes sensible aux enjeux écologiques, vous qui vivez près des arbres, dans votre Jura natal ?
Oui, comme tout le monde, je pense. Oui. Enfin, maintenant, tout le monde est quand même intéressé ou provoqué par l'écologie.
Et vous aviez envie de traduire ça dans vos chansons aussi, d'instiller comme ça des...
Non, c'est venu naturellement. Vous savez, l'intérêt de la chanson ou de la peinture, enfin tout ce qui est artistique, c'est qu'on n'est pas obligé de toujours réfléchir. Nous, on est des artistes, on fait comme on sent, quoi. Donc, c'est difficile de créer une explication de texte ensuite, parce qu'on s'en fout un peu de ça. À partir du moment où les images sont belles, et à partir du moment où chacun peut, en les écoutant, imaginer son propre monde, moi, ça me va, je suis très flatté de ça. Même des fois, on me raconte ce que des gens ont compris de certaines de mes chansons. C'est une autre histoire. Hein,
chacun se fait voilà. Sa propre histoire.
Et moi, les dingues et les paumées, par exemple, j'en ai entendu plusieurs versions expliquées comme ça. Et je trouve ça génial, quoi. C'est-à-dire, avec ma chanson, avec les textes de ma chanson, ils ont réussi à s'inventer une autre histoire qui les touche plus parce qu'ils voient d'autres couleurs de par leur mutation ou leur éducation. Ils voient d'autres couleurs, ils sentent d'autres feelings à travers les mots. Donc, ils s'inventent forcément une autre histoire. Et je trouve que c'est bien de fournir, finalement, de la matière première et de dire, faites votre puzzle, vous pouvez aussi, quoi.
Mais est-ce que vous notez tous les jours des idées qui vous passent par la tête, ou bien est-ce que quand vous devez travailler sur un album, vous vous isolez, vous êtes concentré sur des textes à écrire? Comment ça se passe?
Non, je prends des notes tout le temps. Quand quelque chose m'inspire, que je sens que ça peut être joli dans ma vision à 360 degrés et dans la construction d'une chanson à partir de cette vision, je prends des notes, bien sûr. Je prends de la nourriture en passant. Mais... par contre, j'écris pas tous les jours, c'est par période. Voilà, il y a un moment où je me dis, il faudrait penser à un prochain album. Par exemple, quand j'ai longtemps tourné, que j'ai envie de rentrer à la maison, d'être un peu au calme et de voir un peu à quoi ça comment ça se passe un peu dans mon intérieur. À ce moment-là, oui, je peux me préparer à écrire une chanson. Parfois, c'est long d'ailleurs parce que j'ai perdu le coup de pinceau. Donc il faut déjà repartir depuis le début, comme si on faisait sa première chanson, quoi. Et puis peu à peu, on construit, en se mettant au travail tous les jours, on arrive peu à peu à voir un album apparaître au bout, quoi.
Alors vous êtes toujours assez inclassable dans le paysage musical français, même si vous avez la reconnaissance médiatique aujourd'hui. Écoutez ce que dit de vous le journaliste musical Sébastien Bataille. Il vous consacre une biographie, Hubert Félix Thiéphaine, Animal en quarantaine, qui sortira chez l'Archipel le 21 octobre.
Je pense qu'il est le dernier monstre sacrément poétique de la chanson française. Il suffit d'écouter son œuvre pour voir qu'il y a un talent fou. Et c'est une œuvre qui parle à l'inconscient collectif beaucoup en force. C'est une œuvre qui n'est pas démago, c'est une œuvre chargée d'émotions, de mélodies. Et c'est tout un, comme ça, un enchevêtrement de choses inhabituelles qu'on n'entend pas forcément toujours à la radio, qui ne sont pas médiatisées, mais qui touchent les gens parce qu'ils entendent quelque chose qui résonne en eux.
Est-ce que c'est le plus poète des rockeurs français ou est-ce que c'est le plus rock des poètes français?
Je dirais que les deux lui vont parfaitement bien, même si aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment dans une dimension plus pop, universelle, pas forcément rock, tel qu'on l'entend, grosse guitare, gros riff saignant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une dimension vraiment comme ça, pop, mais au sens vraiment populaire, et avec toute cette poésie qui envoûte les chansons. Donc les deux, je pense que les deux sont là, mais même s'il y a toujours son cœur de rocker qui passe sous le blouson, et c'est un cœur d'artichaut, je dirais, mais ça reste toujours un cœur de rocker, oui.
Sébastien Bataille, interrogé par Cécile Lavolo. Hubert Félix Thiéphaine, cœur de rocker ou cœur d'artichaut alors?
Oh là, il doit y avoir un peu des deux, non? Je pense qu'il y en a d'autres en plus. Vous savez, ce qui m'intéresse dans la vie et dans l'écriture et dans la poésie et l'art en général, moi, c'est la vision que j'en ai à 360 degrés, c'est-à-dire de tourner et d'essayer de récupérer tout ce qui est un peu comme le facteur cheval, si vous voulez, mais au lieu de prendre des mélodies et des notes et des mots, au lieu de prendre des cailloux et des formes bizarres de matière. Mais je fonctionne comme ça, c'est-à-dire j'aime regarder tout autour de moi. Et je peux, de cette façon, des fois m'inverser complètement, aller à contresens de ce que je pouvais penser quelques heures avant, mais voilà, je suis ailleurs et ça enrichit ma vision. Et puis je peux tourner en même temps que tournent autour de moi les choses, donc ça peut créer une certaine folie et j'aime travailler de cette façon, oui.
Et alors, vous aimez aussi vous enrichir des apports de la créativité de la nouvelle génération. C'est ce que vous avez fait sur cet album, en faisant appel à des gens comme Armand Méliès, Joseph Danvers.
Alors, Armand Méliès, ça fait déjà un petit moment que je travaille avec lui. D'ailleurs, quand je suis en période d'écriture et que je sens que le texte part dans la mélancolie, je pense à Armand. Je dis ça, c'est un texte, il ne faut même pas que j'essaye de mettre une musique dessus. Armand fera beaucoup mieux que moi. Donc, il y a JP Nataf aussi, avec qui, pour les mêmes raisons, j'ai travaillé déjà depuis un moment.
Alors, il y a Joseph... C'est votre fils qui vous a suggéré Nosfell, par exemple?
Oui, c'est une belle découverte, quoi. Je trouve que la musique qu'il a mise sur le texte que je lui avais donné est fabuleuse. C'est-à-dire, il a travaillé sur chaque mot comme moi, j'ai pu travailler sur les mêmes mots, quoi. Et là, on dépasse... Il y a vraiment une osmose et ça matche terriblement entre les deux. Et puis, il y a Marc Perrier, qui est un peu moins connu parce que il est bassiste d'origine. C'est mon bassiste depuis 10 ans maintenant. Mais où j'ai eu un coup de cœur pour les deux musiques qu'il m'a présentées et où je me suis mis tout de suite au travail à chercher des textes à mettre sur ces musiques, ce qui était une autre façon de travailler aussi pour moi. Et il y a Lucas Thiéphaine qui a écrit trois chansons que j'adore d'ailleurs, dont j'adore les mélodies.
Et qui a réalisé l'album.
Et qui est le réalisateur, on peut dire ça comme ça.
Hubert, vos textes, et pas seulement dans cet album, sont truffés de références bibliques. Vous vous sentez comme un ange déchu dans la chanson du soleil dans ma rue. Dans Prière pour Baal Azabab, vous évoquez les saintes images engluées dans la morve d'un dieu fétide et prisonnier d'un futur mis à feu. Et vous chantez « Au Seigneur fou des bacchanales, ne me délivrez pas du mal ». Dans la chanson « Page noire », la plus belle selon moi de l'album, vous évoquez les lois tombant d'un Sinaï, le décalage, les nouveaux Moïse, Babylone, les cloches de la résurrection. Pourquoi est-ce que vous êtes fasciné à ce point par l'univers religieux?
Parce que je suis passé par là.
C'est ce qui vous reste de votre passage au petit séminaire, c'est ça?
Oui, mais à l'époque où je passais par là, il y avait des millions de Français qui remplissaient encore les églises à l'époque. Et puis, la plus belle année du rock'n'roll, c'est 1966, d'après certains spécialistes, je suis assez d'accord. Et ça correspond avec la retombée de la puissance de l'Église catholique. C'est-à-dire à partir de 1966, les gens s'arrêtent d'aller à l'Église, s'arrêtent d'aller à leur messe du dimanche. Et il y a une chute presque catastrophique de, de la religion catholique cette année-là. Je ne pense pas que ça ait un rapport avec, avec le rock, mais moi, j'étais plutôt dans le rock à ce moment-là, quoi. Oui, je suis passé par là. J'ai eu une éducation religieuse. J'ai dû même dire Dieu avant papa, maman, hein, je pense. Donc, l'éducation, c'est terrible, quoi. C'est comme ce qui est génétique, presque. On a beau se révolter pendant l'adolescence et après, on a beau vouloir casser le moule, c'est en nous, quoi. C'est incrusté, c'est presque génétique, quoi.
D'imaginer le pire, d'imaginer la peur à l'heure du temps zéro. Nous n'avons plus le temps pour les larmes et les rires, plus le temps de flirter avec les chaînes infos. Notre besoin de paix, d'amour et d'illusion s'est perdu dans le feu. Notre hypocrisie, quand nous cherchions en vain là-bas dans les bas-fonds, sous le marbre des morts, l'entrée d'un paradis. Nous n'avons plus le temps d'imaginer le pire, d'imaginer nos yeux de chiens hallucinés. Nous n'avons plus le temps pour les larmes et les rires, plus le temps d'éviter à nos corps de sombrer. Les rats inoculés ont quitté l'arrière-cour et les mouches tombent avant de goûter au festin. Quand de joyeux banquiers cherchent un nouveau tambour pour battre le retour d'or clandestin. Nous n'avons plus le temps d'imaginer le pire, d'imaginer nos lois tombant d'un Sinaï. Nous n'avons plus le temps pour les larmes et les rires, plus le temps d'oublier ceux qui nous ont trahis. Le décalogue se brise milliards de versions, mais les nouveaux Moïse n'intéressent plus Rembrandt. Et dans les ruines obscures des salles de rédaction, les rotatives annulent le sacre du printemps. Nous n'avons plus le temps d'imaginer le pire, d'imaginer nos pleurs d'esclaves à Babylone. Nous n'avons plus le temps pour les larmes et les rires, plus le temps de prier les vierges et les madones. J'entends les harmonies d'un chant de rémission, d'un cantique atonal aussi vieux que nos races. Et puis j'entends les cloches la résurrection, quand j'arrache le suaire qui nous colle à la face.
Hubert-Félix Thiéphaine, je reviens à la perception qu'on a de vos textes. Ils sont souvent énigmatiques, surréalistes, oniriques. Vous fusionnez la poésie, la science-fiction, vous en parliez tout à l'heure, et des références littéraires qui vont de Rimbaud à Nietzsche en passant par Homère ou Sénèque. Et vous ne vous posez jamais la question, est-ce que le public va comprendre ?
Non, parce que je sais que ça l'intéresse et que je connais beaucoup de personnes qui font le chemin. Alors, je pense à eux des fois quand j'écris. Il y a des albums comme ça, c'est des jeux de pistes. Je me souviens de l'album Défloration 13, j'avais carrément créé un jeu de pistes dans le Rolling Stone qui est mort en 69. Brian Jones habitait la villa de l'auteur, avait repris la villa de l'auteur de Winnie l'ourson, et j'avais écrit une chanson qui s'appelait Also sprach Winnie l'ourson en faisant une référence à Nietzsche.
Et
moi, je me prends à mes propres jeux. Là. Je m'amuse beaucoup à faire ça. Ouais.
Et vous avez un retour du public?
Oui, oui.
Quand vous lancez des défis comme ça?
Oui, je sais qu'il y a, il y a un certain nombre de personnes qui essaient de suivre les indices. Ouais.
Vous avez raconté que vous faisiez même donc exprès de rajouter des zones d'ombre pour stimuler l'imaginaire du
oui,
public.
Oui, mais ça, c'est mon côté peinture. Et c'est... On retrouve ça chez le Caravage, par exemple, où parfois la moitié de la toile est couverte d'un rideau noir. Quoi. Mais c'est très riche, ce rideau noir, parce qu'on peut, on sent l'âme qu'il y a dans le reste du tableau. Ça nous aide à nous mettre dans une situation d'accueil pour voir le tableau en entier, en fait.
Est-ce que vous peignez encore?
Oh non, je n'aime pas me salir les doigts. Je fais ni mécanique auto, ni peinture.
Est-ce qu'il vous arrive de vous censurer?
Oui, bien sûr, comme tout le monde. Ouais.
Quand vous écrivez?
Oui, mais surtout là, oui.
Pourquoi?
Oh, parce qu'il y a des choses qui peuvent me gêner par la suite, je pense. Je me censure moins aujourd'hui parce que je vais plus directement vers des choses correctes, peut-être. Mais il y a d'autres époques où il fallait que je me censure parce que déjà, mes textes avaient du mal à passer. Donc, j'étais obligé de les... Parfois, dans la censure, il suffit de changer la couleur ou... Il suffit de mettre le mot en question dans une autre position. Et on arrive toujours à dire la même chose, de toute façon, mais en l'arrangeant un peu plus, quoi.
Comment vous expliquez que vous ayez été, vous venez d'employer le mot censuré, mais au moins ignoré ou boycotté par les grands médias, radio, télé?
Oh, je ne veux pas rentrer dans ce domaine. Je ne sais pas vraiment, en fait. J'ai un tas de possibilités, de choses, des conneries que j'ai dû faire, ou je ne sais pas. Mais ce que je voulais dire à propos de la censure, les artistes, quelle que soit la matière qu'ils utilisent, se censurent forcément, puisqu'ils vont chercher... on cherche toujours un peu la perfection, même si on sait qu'on n'y arrivera jamais. Donc, forcément, on ne laissera pas un mot... Si un mot dérange, on va le travailler tous les jours s'il faut pendant 15 heures, mais on va trouver le mot qu'il faut, quoi. Et je pense que j'ai des amis qui sont peintres, ils font pareil avec leurs tableaux et on s'accroche. Donc c'est une forme de censure quand même. C'est, quand je parle d'autocensure, c'est plutôt dans ce sens-là d'aller vers le mieux.
Donc chaque mot est pesé, retravaillé. Vous avez raconté aussi que, à propos des mots désuets ou oubliés qu'on retrouve aussi dans vos textes, que vous étiez un conservateur de musée.
Oui, j'ai sauvé quelques mots comme ça. Oui.
Par exemple
Dans l'avant-dernier album, j'ai sauvé In Espoir. J'en ai sauvé d'autres, hein, mais je n'ai pas la mémoire des listes. L'inespoir, j'ai cherché dans beaucoup de dictionnaires, j'ai pas trouvé. J'ai donné ma propre définition, en fait, qui devait peut-être pas être celle que donnaient les auteurs du 19e, du 18e siècle.
Alligator 427, aux ailes de cachemire, safran, je grille ma dernière cigarette, je vous attends. Sur cette autoroute hystérique qui nous conduit chez les mutants, j'ai troqué mon cœur contre une trique. Je vous attends. Je sais que vous avez la beauté destructive et le sourire vainqueur jusqu'au dernier soupir. Je sais que vos mâchoires distillent l'agonie.
Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir, j'arriverai par l'ascenseur de 22h43 et je viendrai relever le compteur de ton ennui. Il te faudra sans doute changer de tête et puis brancher ton cerveau sur ton cœur. Les Bretons ont des chapeaux ronds, les Parisiens ont le Panthéon, les Occitans ont Fos-sur-Mer et les Lorrains Servan-Schreiber. Les Alsaciennes font des biscuits que l'on trouve aussi à Paris. À ces gens-là, on dit gaga, car ils n'ont pas ce que l'on a. La cancan, coyote se teint, mais ben flancantouais, tout en dansant la gavotte, on se beurre la gueule à la rouée. La cancan, coyote, ce n'est pas pour ces François, quand ils viennent avec leurs bottes, on leur dit n'est ni ma fouée. Elle descendait de la montagne sur un
un chariot chargé de paille, sur un chariot chargé de foin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint.
Mon blues a déjanté sur ton corps animal, dans cette chambre où les nuits durent pas plus d'un quart d'heure. Juste après le péage, assurer l'extra balle et remettre à zéro l'aiguille sur le compteur.
Hubert-Félix Thiéphaine, on vient d'entendre quelques chansons phares de vos 40 ans et quelques de carrière. À quel moment, avec quelles chansons avez-vous découvert votre style ?
Avec l'ascenseur de 22h43. Oui, parce qu'avant, j'étais encore sous l'influence de pas mal de gens, surtout de Léo Ferré. Et c'était trop. J'avais pas envie d'être Léo Ferré, il existait déjà et il existait très bien. Et j'adorais ce qu'il faisait, mais ce n'était pas une raison pour refaire les mêmes choses. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à essayer de me trouver, moi, comme auteur. Et l'ascenseur de 22h43 m'a un peu... a été mon cobaye dans l'évolution de la chanson elle-même. Et puis un soir, une après-midi plutôt... je me souviens parfaitement du moment où j'ai trouvé les bouts de phrases qui manquaient exactement sur cette chanson pour faire quelque chose de solide et qui était vraiment mon style, quoi.
Alors, ce qui est étonnant à vos concerts, c'est qu'ils rassemblent trois générations. Les parents qui vous ont découvert il y a 40 ans, leurs enfants et maintenant leurs petits-enfants. Et tout le monde connaît par cœur la plupart des chansons. Comment vous arrivez à toucher trois générations ?
Là, je monte sur scène, je chante, ou je rentre chez moi, j'écris, je compose. voilà, je ne sais pas vraiment, c'est des choses qu'on ne sait pas, ça.
Vous pensez que c'est votre côté peut-être ado, rebelle, libre ? Vous restez un homme libre ?
Ben, disons que j'ai pas réussi à être normal, quoi, dans l'histoire d'un garçon du XXe siècle en France. Et c'est peut-être l'originalité qui fait que, quoi. Enfin, je sais pas, je pense que oui, moi je voulais faire des chansons autrement que celles que j'entendais notamment à la radio. J'avais envie de créer un style qu'on dise du Thiéphaine, c'est ce qui se passe un peu maintenant. Alors il y a peut-être ça, tout simplement. Moi je cherche pas à savoir, d'ailleurs des fois ça me trouble parce que je sais plus très bien où me situer moi-même, quoi. Parce que ça réveille des fantasmes ou ça réveille... des extrapolations, mais disons que il y a tout ça qui joue, je pense. C'est comme savoir pourquoi j'étais censuré par les médias. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que j'ai pu faire ce que j'avais envie de faire, avec ou sans les médias.
Et vous avez rempli les salles, de plus en plus grandes.
Rendre jaloux, justement, ceux qui passaient à la télé et à la radio. Donc, et peut-être que c'est à cause de ça, mais je veux plus essayer de penser au pourquoi de ça, parce que j'ai pas la solution, personnellement. Puis, je pense que ça peut davantage intéresser les gens des médias de chercher eux-mêmes.
Eh ben, on va continuer à chercher, alors.
Si le sujet les intéresse, évidemment.
Merci beaucoup, Hubert-Félix Thiéphaine, d'avoir été notre invité pour Géographie du vide, votre nouvel album. Vous serez en tournée Unplugged en France à partir du 9 janvier prochain, pour 5 mois. Vous ferez un détour aussi par Bruxelles et Genève. Merci à Cécile Lavolo à la programmation et Guillaume Ploquin à la réalisation. À demain, et d'ici là, portez-vous bien.